VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Nathalie Barge.
Bonsoir, au sommaire de cette édition du 4 mai 2017. Burkina Faso, nouveau report du procès des ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Les Tchadiens Nadjo Kena et Bertrand Solo du mouvement Tournons la page, condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Faible mobilisation aux élections législatives en Algérie. Adoption Astana du dernier plan russe sur la création de zones sécurisées en Syrie. Et après 20 ans d'absence, retour à Kaboul de l'ex-chef de guerre Ekmaïtar, escorté par un impressionnant convoi armé. La campagne présidentielle française s'envenime à 3 jours du scrutin. Et l'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Les ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré étaient de retour ce matin dans le box des accusés au Burkina Faso. Après un premier envoi le 27 avril dernier, les avocats ont soulevé des exceptions et obtenu un nouveau report. Issa Napon à Ouagadougou.
Deux faits majeurs ont caractérisé cette deuxième journée. Les avocats, notamment ceux de Baba Ama et Baba Djemé, ont été à l'origine du report du procès. Commis d'office, Maître Odilon Gouba et Drissa Badini ont indiqué avoir reçu seulement la veille les éléments de leur dossier, les deux ministres étant jusque-là sans avocat. L'autre fait est le coup de colère de l'avocat de Blaise Compaoré. La Haute Cour de justice, après constat de la non-comparution de l'ancien président, a refusé la parole à Maître Olivier Sieur au motif que l'avocat ne remplissait pas les conditions pour représenter Blaise Compaoré dans un procès au pénal en l'absence de ce dernier. L'avocat s'en est plaint d'un ton amer après avoir quitté sa toge. Le jugement est pour ainsi dire reporté cette fois au lundi matin dans 4 jours où l'on espère enfin entrer dans le vif du sujet. Le dernier gouvernement de Blaise Compaoré est poursuivi dans le cadre de la répression sanglante des manifestants de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et de la fameuse réquisition signée de l'ancien chef de gouvernement Luc Adolphe Thiaw requérant l'armée pour maintenir l'ordre par tous les moyens, y compris par l'usage des armes. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Les militants tchadiens Nadjo Kena et Bertrand Solo ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis par le tribunal de grande instance de N'Djamena. Ces membres du mouvement Tournons la page étaient inculpés de troubles à l'ordre public et incitation à la révolte. Timothée Donangmaï a joint l'un de leurs avocats, Maître Olivier Alaguéribaï.
La chambre correctionnelle du tribunal de grande instance, statuant sur la poursuite initiée par le ministère public contre les activistes, a donc rendu sa décision en ces termes qu'il reconnaît les deux activistes coupables de faits de tentative d'attroupement et en répression, il les condamne à 6 mois d'emprisonnement avec sursis.
Alors, quelle est votre réaction à cette sentence?
Par rapport aux faits et l'infraction retenue contre eux, je ne vois pas un rapport parce que selon les activistes, ils avaient simplement demandé aux membres de porter la tenue rouge et chacun doit vaquer à ses occupations. Ils n'ont jamais appelé à un attroupement quelconque ou à une manifestation. C'est curieux que le tribunal retient, à titre de délit, la tentative d'attroupement pour les condamner donc à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Tout à l'heure, on est en train de se concerter, mais c'est bien sûr on relèvera appel demain pour voir la situation au clair.
Maître Olivier Alaguéribaï à N'Djamena. La justice ivoirienne a accordé la liberté provisoire à Antoinette Rouissa-Méo, une responsable des femmes du FPI incarcérée depuis août 2016 pour atteinte à la sûreté de l'État, a annoncé son avocat Toussaint Dako. L'opposante avait été arrêtée à son domicile de Yopougon et n'a jamais été jugée. Son arrestation n'est nullement liée au procès de Simone Gbagbo, avait déclaré dans le ministère de la Justice, affirmant qu'elle était recherchée pour atteinte à la sûreté de l'État. 40 tonnes de faux médicaments ont été saisies à Abidjan, a annoncé la ministre de la Santé, Raymonde Kofi Goudou. L'opération éléphant a été menée hier par 700 policiers, gendarmes et militaires dans le quartier Roxy du Grand Marché d'Adjamé, conduisant à la destruction des shops pour en extraire de nombreux cartons de faux médicaments. 11 navires ont été saisis pour pêche illégale en Afrique de l'Ouest, où des infractions ont été constatées ces dernières semaines par les services nationaux et Greenpeace, a affirmé l'ONG. Avec 5 pays d'Afrique de l'Ouest, Greenpeace termine ce week-end à Dakar une tournée de 2 mois de contrôle qui visait à s'enquérir des conséquences de la surpêche sur l'environnement et la sécurité alimentaire des populations dépendantes du poisson. Les Algériens ont voté aujourd'hui pour renouveler leurs députés lors d'un scrutin dont le principal enjeu est la mobilisation des électeurs. Tatiana Mosso.
La participation est le principal enjeu de ces élections. L'abstention risque d'être importante. Les résultats doivent être annoncés vendredi. Ce scrutin se tient en plein marasme économique et social. L'Algérie, riche en hydrocarbures, traverse une crise financière en raison de la chute de ses revenus du pétrole. Les Algériens, plus préoccupés par la santé du chef de l'État, sont convaincus que ces élections ne peuvent pas conduire à un changement et que l'ordre politique établi ne sera pas bouleversé. L'Assemblée nationale est perçue comme une chambre d'enregistrement dominée depuis des décennies par le FLN au pouvoir. Elle dispose de pouvoirs limités, le président étant à l'origine de l'essentiel des projets de loi. La santé du président Abdelaziz Bouteflika, 80 ans, fait en outre l'objet de toutes les spéculations. Dans une rare apparition publique, Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, a voté ce jeudi assis sur un fauteuil roulant à Alger.
Saisie par l'opposition, la justice sud-africaine à Pretoria a ordonné au président Jacob Zuma de publier les documents qui ont justifié le récent remaniement du gouvernement. Le limogeage fin mars du ministre des Finances Pravin Gordhan a poussé dans les rues des dizaines de milliers de manifestants qui ont exigé la démission du président accusé de piller les deniers publics.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chambre des représentants américaine vote aujourd'hui sur l'abrogation de l'Obamacare, la loi sur l'assurance santé de Barack Obama. Jacques Aristide.
Fin mars, c'était un échec pour le président Donald Trump sur son premier grand test législatif, après avoir promis d'abroger l'Obamacare, ou plutôt l'Affordable Care Act, promulgué par son prédécesseur en 2010, afin de réduire le nombre d'Américains sans couverture maladie. Les républicains n'avaient pas suffisamment de voix pour faire passer leur projet. L'aile conservatrice du parti estimait que le texte ne différait pas assez de l'Obamacare, tandis que les modérés craignaient à l'inverse que le projet ne revienne à accroître le nombre d'Américains sans couverture médicale. Après des semaines d'ajustements, les dirigeants républicains croient cette fois-ci qu'ils auront suffisamment de votes dans leur deuxième tentative. Ça va passer, c'est un bon texte, a assuré Kevin McCarthy, chef de la majorité. Toutefois, le vote pourrait être serré. Aucun démocrate ne soutient le nouveau texte. Les républicains, malgré leurs dissensions internes, devront donc serrer les rangs pour rassembler les 216 voix nécessaires à son adoption. Ils ne peuvent s'offrir que 22 défections. Si le texte est adopté à la Chambre des représentants, il sera examiné dans les prochaines semaines au Sénat, où il sera encore amendé en profondeur. C'est donc une âpre bataille en perspective.
La Russie, l'Iran et la Turquie ont adopté à Astana, au Kazakhstan, le dernier plan russe pour la Syrie visant à créer des zones sécurisées pour instaurer une trêve durable dans plusieurs régions. Les chefs des délégations ont signé un mémorandum sur la création de zones de désescalade en Syrie, a indiqué le ministre kazakh des Affaires étrangères Kerat Abdarkhramanov. Les pays garants doivent définir les contours de ces zones. Leur validité sera de 6 mois avec possibilité de prolongation, a déclaré l'envoyé spécial russe pour la Syrie, Alexandre Lavrentiev. Après 20 ans d'absence, l'ex-moudjahidine anti-soviétique Ekmatyar est rentré dans Kaboul, escorté par un impressionnant convoi armé. Son retour consacre l'accord de paix avec le gouvernement d'Ashraf Ghani, qu'il a accueilli en grande pompe au palais présidentiel. Le parquet hongrois a renvoyé aux assises en juin 11 suspects pour la mort de 71 migrants dans un camion frigorifique retrouvé en Autriche en 2015, précisant qu'il requérait la perpétuité contre 4 des accusés. 59 hommes, 8 femmes et 4 enfants, dont un bébé, sont morts d'étouffement dans le véhicule parti de Hongrie. Le procureur avait requis la réclusion à perpétuité pour un Afghan et 3 Bulgares. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Didier Dico.
Selon un rapport de l'université américaine Johns Hopkins, la banque chinoise d'import-export, la China Exim Bank, a prêté 63 milliards de dollars aux pays africains entre 2000 et 2015. Les principaux pays bénéficiaires, l'Angola, l'Éthiopie, le Kenya, le Soudan, le Cameroun et la République démocratique du Congo. Ces prêts sont allés en priorité au secteur du transport, de l'énergie, des télécommunications, de l'eau et de l'assainissement. Les États-Unis mobilisent 156 milliards de francs CFA pour soutenir la santé publique au Cameroun. L'ambassadeur américain Michael Steven Hosa a indiqué que cette enveloppe va permettre de répondre de manière efficace à l'amélioration de la santé maternelle et infantile, la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies comme la fièvre Ebola. Enfin, le cabinet d'audit Ernst & Young vient de désigner le Maroc comme l'économie la plus attractive du continent africain. L'édition 2017 mesure les investissements dans 46 économies africaines sur la base de critères évaluant les progrès dans la gouvernance, la diversification, les infrastructures, les opportunités d'affaires, le développement humain et la résilience. Le Maroc prend la première place de la plus grande économie africaine à l'Afrique du Sud, qui est deuxième ex aequo avec le Kenya.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors on commence par du football. La demi-finale de la Ligue des Champions, Monaco, battue hier soir à domicile par la Juventus.
Oui, c'était 2-0 au stade Louis II de Monaco, un doublé de Gonzalo Higuain. L'Argentin a ouvert la marque à la 29e minute avant de doubler à la 59e. L'AS Monaco, malgré un Kylian Mbappé entrepreneur, a bien tenté de percer le rideau défensif turinois, mais sans succès, notamment en deuxième période. Monaco en passe de devenir le champion en titre de France a compromis sérieusement ses chances avec une telle défaite, d'autant plus que la Juve est imbattable chez elle.
En Ligue Europa, l'Ajax a infligé une correction à un autre club français.
Oui, l'Olympique Lyonnais avec ce score sans appel de 4-1 pour le club de la capitale néerlandaise qui prend là une option sérieuse avant le match retour en France. Le Burkinabé Bertrand Traoré, auteur d'un doublé, a ouvert le score dès la 25e minute. Lyon, il faut le dire, n'a jamais battu l'Ajax en Coupe d'Europe. Pour nos confrères de l'équipe, il faudra un immense miracle au retour à Lyon pour renverser la situation.
Match amical entre le Burkina Faso et le Bénin.
Oui, le match se joue en ce moment au stade du 4 août. À la pause, les étalons locaux menaient 1-0 grâce à un but de Lassina Traoré à la 43e minute de jeu.
Football toujours, Bagassi, le Gabon affrontera la Zambie en match amical.
Oui, ce sera le 3 juin à Libreville, selon les organisateurs, pour préparer le début de la course à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Pour la première journée de qualification pour Cameroun 2019, le Gabon se rend au Mali le 10 juin. Et le même jour, la Zambie reçoit le Mozambique.
Et l'arbitrage vidéo sera utilisé pour tous les matchs du championnat du Portugal.
Et c'est dès la saison prochaine, selon la Fédération nationale, qui espère ainsi mettre fin aux querelles incessantes entre les trois grands clubs du pays. La A-League australienne est devenue le mois dernier le premier championnat professionnel de football à adopter l'assistance vidéo à l'arbitrage qui se trouve en phase de test dans plusieurs pays, dont le Portugal, la France, l'Allemagne, le Brésil, l'Italie et les Pays-Bas.
On change de discipline, première tentative. tentative pour courir le marathon en moins de 2 heures.
Oui, 42 145 km en moins de 2 heures, projet de Nike avec le champion olympique kenyan Eliud Kipchoge. Et cela va se dérouler samedi prochain sur l'autodrome de Monza, c'est en Italie.
Merci Bagassi.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Le nord du Mali est de nouveau le théâtre d'attaques terroristes, et ce malgré la présence de la force onusienne et des soldats français qui mènent des opérations depuis 2013. Selon l'ONU, le nombre d'attentats revendiqués par des groupes djihadistes a triplé en une année, passant de 28 en 2015 à 85 en 2016. Pour une analyse sur la multiplication de ces attaques, Eric Manirakiza a joint à Nouakchott le rédacteur en chef d'Al-Akhbar, Ahmed Diop.
Au nord du Mali, c'est la course contre la montre. Il y a une guerre des coalitions. Il y a les pays du G5 qui veulent se regrouper et faire une armée commune pour s'impliquer contre le terrorisme au Sahel. Il y a également le gouvernement malien qui, de son côté, veut mobiliser également les ex-rebelles pour reprendre le nord du territoire. Il y a les islamistes qui prennent les deux rangs, aussi multiplient les attaques, et eux, récemment, ils ont créé également leur coalition. Un autre point, c'est que la France de Hollande, qui a fait une guerre depuis 2013 et qui n'a pas vraiment fait des résultats avant le départ de Hollande, ils veulent prouver qu'il y a quelque chose qui a été fait sur le terrain. Finalement, c'est toutes ces forces donc, qui s'affrontent.
Quelle est la force qu'on peut donner à cette nouvelle coalition, cette alliance djihadiste récemment créée?
On peut lui attribuer deux forces. Déjà, il y a une force locale et également une force islamiste, parce que ce sont des groupes islamistes armés. Mais et parmi aussi les groupes les plus radicaux comme El Mourabitoun qui a revendiqué de toute façon plusieurs attentats et Al-Qaïda déjà, et plus Ansar Dine qui est un mouvement indépendantiste mais également djihadiste. Donc indépendantiste, c'est un mouvement local qui regroupe des combattants Touareg. On a vu les récentes attaques contre des hôtels et tout cela, les djihadistes ont voulu à ce que les auteurs soient des nationaux. C'est une coalition des djihadistes et des ex-indépendantistes de toute façon qui sont des radicaux.
L'accord d'Alger a tenté de stabiliser notamment le nord du Mali. Est-ce qu'on peut penser que les signataires de cet accord sont capables de se mettre ensemble pour faire face à cette nouvelle coalition?
C'est déjà une bonne question, parce que la coalition des djihadistes surtout se sont engagés contre cet accord d'Alger, mais l'application de l'accord sur le terrain est difficile et que les islamistes veulent faire peur à tous ceux qui tenteraient de s'impliquer en faveur de l'application de cet accord. En tout cas, aujourd'hui, c'est un rapport de force. Il faudra que vraiment les signataires de l'accord soient vigilants et puis mettent tous les moyens nécessaires, que ça soit stratégique, moyens militaires et tout, et développement, surtout le développement, c'est très important pour vraiment s'ils veulent vaincre les islamistes. Mais pour le moment, la guerre est loin d'être terminée.
Le journaliste Ahmed Diop était joint à Nouakchott.
Dans Washington Forum ce jeudi, la journée mondiale de la liberté de la presse. Après les baisses d'audience parmi les médias traditionnels, la diminution des profits et les allégations d'une déconnexion croissante entre les médias et leur public, la prolifération des fausses informations et les faux reportages sont les défis les plus récents auxquels fait face le secteur. Où en est la liberté de la presse à travers le monde? Comment défendre l'indépendance des médias? Ou comment se portent les médias dans votre pays? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Timothée Denangmaï et ses invités.
Près de 23 millions d'Algériens étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour les élections législatives. La mobilisation des électeurs est difficile, tant ce Parlement ne dispose que de pouvoirs très limités. L'enjeu du vote est la stabilité, alors que les islamistes espèrent rebondir. pour comprendre le désintérêt des Algériens face à cette élection. Claire Morin-Gibourg a joint Saad Kiari, spécialiste de l'Algérie, à l'IRIS.
Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Les Algériens s'intéressent plus au débat d'élection présidentielle en France en ce moment qu'aux législatives en Algérie. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un dans la rue, vous lui posez la question, son candidat de sa circonscription, il habite au-dessus de chez lui, il ne le connaît pas. Par contre, il connaît Florian Philippot.
Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est parce que l'Assemblée nationale a peu de pouvoir réel?
Si vous voulez, l'Assemblée nationale, c'est un parlement croupion. C'est une chambre d'enregistrement qui n'a jamais joué son rôle de parlement démocratique. Voilà. Les députés sont des gens qui sont à la botte du pouvoir, c'est rien à dire. Il y a des députés de l'opposition qui font un travail remarquable, mais si vous voulez, ils ne pèsent pas lourd par rapport à l'Assemblée qui est pratiquement monocolore. Il y a effectivement une volonté de démocratiser le système, de renforcer le réflexe civique, de pousser les jeunes à voter, mais ça n'intéresse personne parce que l'image même du député, chez les jeunes surtout, c'est la planque, comme on dit là-bas, c'est-à-dire que c'est un salaire, hyper salaire garanti à vie, et plein d'avantages matériels, voitures, logements, etc. Donc si vous voulez, les gens courent après le poste de député, plus pour des raisons strictement matérielles que pour des raisons de idéologie politique ou de combat politique. Voilà. Je ne généralise pas, bien sûr, c'est sûr qu'il y a, quelques candidats qui veulent vraiment changer des choses, mais ils sont une minorité.
Comment vous expliquez que le gouvernement se soit finalement à ce point impliqué? Le président Bouteflika l'a appelé les électeurs à voter avec la fameuse campagne « Sama Sawek fait entendre ta voix ». Le Premier ministre a multiplié les appels. Est-ce que le gouvernement a peur d'une certaine façon d'une montée des islamistes?
Il a toujours peur de la montée. Parce que si vous voulez, les seules forces qui soient organisées, ce sont les islamistes. Parce qu'ils ne sont pas aux premières loges, ils ne sont pas au pouvoir. Donc si vous voulez, on est pur et dur, on fait du travail, on fait du social, etc. C'est comme ça que l'islamiste s'introduit dans ces sociétés. Si vous voulez, un petit peu comme l'ont fait les frères musulmans pendant des années. Et donc aujourd'hui, ceux qui sont vraiment actifs pour mobiliser les gens et qui arrivent à mobiliser les gens sont les islamistes. Ou alors peut-être, dans certaines régions, ce qu'on appelle les régionalistes, comme en Kabylie, etc. Dans l'ensemble, le pays est complètement désintéressé par cette histoire d'élection parce qu'ils savent que ça ne débouche sur rien.
Saad Kiari, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, était joint à Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les violences dans le Kasaï ont fait 1 million de personnes déplacées en RDC selon l'ONU. Le HCR affirme avoir comptabilisé en Angola au moins 16 000 réfugiés qui ont fui cette région congolaise. Ces personnes en détresse arrivent parfois avec des blessures graves. Eddy Issango a joint dans la ville angolaise de Dundo le chef de l'équipe d'urgence du HCR à Cisdas.
Beaucoup d'entre eux traversent par les brousses en marchant pendant 3 à 6 jours pour arriver en Angola. Ils sont épuisés. Souvent, ils n'avaient rien à manger pendant le trajet. Avec ce qu'ils disent, c'est de la peur, l'intimidation et la situation difficile qu'ils ont observée chez eux et pendant le voyage. Ce qu'ils racontent quand ils arrivent à l'intérieur d'Angola. Ils aussi essayent de trouver cette personne qui sont venues avec des blessures et suivies avec d'autres formes de violence. Mais pour le moment, on n'a pas vraiment une chiffre exacte pour pouvoir donner la taille de violence qui sont passées là-bas.
Mais est-ce que vous pensez qu'il y aura dans la suite beaucoup plus de réfugiés qui viennent du Kasaï?
En fait, qu'est-ce qui s'est passé? À peu près 11 000 personnes sont venues jusqu'à 18-19 avril. Ensuite, il y avait une pause. Il n'y avait pas beaucoup de nouveaux arrivés. Et finalement, à partir d'il y a 3 jours, on reçoit aussi encore de nouveaux arrivés. Comme ça, les chiffres ont augmenté de 11 000 500 à 16 000 quelque chose jusqu'à hier. Comme la situation dans la Kasaï n'est pas vraiment stabilisée, on prépare pour accueillir plus de gens.
Le HR a demandé aux autorités angolaises de déplacer les réfugiés qui sont à Dundo, une ville frontalière avec la RDC, à un autre endroit un peu plus éloigné. Quelle en est la raison?
Selon les standards internationaux, en général, on recommande de ne pas créer le camp de réfugiés moins de 50 km de la frontière pour éviter les attaques interfrontalières et autres genres d'insécurité. Et à cause de ça, on a forcé deux réseaux principaux. Nous avons discuté avec l'autorité angolaise pour trouver un meilleur endroit pour déplacer cette population, pour pouvoir offrir une meilleure condition d'habitation, d'accès aux services, etc.
Assis Das, chef de l'équipe d'urgence du HCR à Dundo, en Angola, une ville frontalière avec la RDC.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Le débat télévisé en France entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, finaliste de la présidentielle, a largement été suivi et commenté par les Africains. Si les avis sont partagés sur les performances des deux candidats, il reste que les Africains qui vivent en France suivent de très près la campagne. John Linden a joint à Dijon le politologue Athanase Karayenga.
Sur le plan de la démarche du débat démocratique, je crois que l'Afrique pourrait en prendre de la graine parce que le processus électoral dans un pays démocratique, comme cela est visible aujourd'hui en France, mais aussi hier aux États-Unis, en Suède, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, dans ces pays démocratiques ouverts, on arrive à proposer au peuple un choix extrêmement construit, un choix extrêmement identifiable par rapport aux intérêts de la population, mais quand même des choix respectueux. L'Afrique a beaucoup de mal à organiser des débats respectueux entre adversaires. L'Afrique a beaucoup de mal à respecter le processus électoral transparent, clair et puis surtout honnête.
On n'a pas beaucoup entendu parler de l'Afrique, même pendant la campagne. Pourquoi?
Clairement, depuis le début de la campagne électorale, le seul des deux finalistes qui a une vision, une proposition sur l'Afrique, sur le développement de l'Afrique, l'accompagnement de l'Afrique, l'inclusion de l'Afrique dans l'économie de l'Europe, c'est Emmanuel Macron. Marine Le Pen n'a rien à dire, n'a rien dit, n'a aucune idée sur ce que l'Afrique devrait devenir dans une relation dynamique, positive, décomplexée avec l'Europe. De toute façon, Marine Le Pen, son choix, c'est de s'enfermer, de boucler les frontières, de bouter tous les étrangers dehors. Donc je ne crois pas qu'elle puisse être un choix désirable pour les Africains.
Est-ce que vous pensez que la jeunesse de Macron peut inspirer en Afrique?
La jeunesse peut inspirer. Mais ce qui est beaucoup plus inspirant, c'est une jeunesse positive, ouverte. Donc, même s'il ne gagnait pas les élections le dimanche prochain, c'est vraiment un parcours exceptionnel. Donc, il est jeune, c'est vrai, mais il a une vision, il a une générosité, il a une intelligence, il a une capacité de projection vers l'avenir qui est absolument magnifique et qui est un modèle pour l'Afrique, mais aussi pour les autres pays du monde.
C'était Athanase Karayenga, analyste politique à Dijon, en France.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 31 40. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Lionel Gaïma. À la console, Vasco Volaric. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Bonne soirée à tous.